Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce début de week-end, un brin frisqué. Bienvenue dans Nous voilà bien, l'émission conso du samedi matin qui vous réchauffe de 9h15 à 10h sur RTL. Un consommateur averti en vaut deux, alors tendez bien l'oreille, place au sommaire. Face à la hausse généralisée des prix, c'est le moment de remettre à plat son contrat d'assurance auto et de faire jouer la concurrence pour réaliser des économies. Mais comment trouver une assurance au meilleur prix et comment renégocier surtout son contrat? Réponse avec Fabien Sociaux, porte-parole assurance chez meilleurassurance.com. À l'heure où les villes s'illuminent aux couleurs de Noël, fleuristes et supermarchés ont commencé à vendre les premiers sapins. Nordman, Épicéa, floqués, coupés, en pot. Quel sapin naturel choisir et comment l'entretenir pour qu'il n'ait point perdu de sa superbe le soir du réveillon? Réponse avec Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Vos enfants ou petits-enfants en ont soupé de vos soupes? Pourtant, il n'y a rien de tel pour faire le plein de vitamines et pour se réchauffer en hiver. Alors comment révolutionner vos potages et réveiller les papilles de toute la famille? Réponse avec notre invitée Angèle Ferremat. Fabien Sociaux, bonjour.
Bonjour, Flavie.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes expert assurance chez meilleurtaux.com, donc vous êtes notre meilleur copain de ce samedi matin. Alors, on va parler assurance, vous et moi, parce que parfois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et puis une fois qu'on a souscrit une assurance, on a plutôt tendance à rester sans se poser de questions. Est-ce que grâce à ce qu'on appelle la loi Hamon de 2015, on peut justement changer d'assurance auto à n'importe quel moment? Et surtout, comment est-ce qu'on procède?
Absolument, vous avez la possibilité de changer d'assurance auto à tout moment passé la première année. Donc ouais, une fois que vous avez fini votre première année de contrat, il suffit tout simplement d'envoyer un courrier à votre assureur pour le notifier de votre souhait de résilier l'assurance et passer un préavis d'un mois, bah vous vous retrouvez avec la possibilité donc d'aller voir où vous voulez. Par contre, attention, si ça fonctionne effectivement comme ça, sur l'auto, il y a quand même une petite subtilité, c'est que comme le contrat d'assurance auto est obligatoire, au moins en formule tiers, vous allez devoir justifier que vous souscrivez un nouveau contrat à votre précédent assureur. D'accord. Pour pouvoir le résilier.
Donc en fait, on peut se quitter comme ça.
Absolument.
Mais en disant, voilà, je te quitte, mais je te quitte pour quelqu'un d'autre.
En auto, oui. On nous quitte pour quelqu'un d'autre, c'est tout à fait ça.
En auto, c'est le cas. Est-ce que mon assureur peut spontanément faire évoluer mes cotisations à la baisse si les tarifs évoluent à la baisse?
Absolument, il le peut. Par contre, ce n'est pas nécessairement systématique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les tarifs moyens de l'assurance vont baisser que votre profil d'assurance va être concerné par une baisse des cotisations. Concrètement, on peut avoir des tarifs qui, au global, sont en diminution, mais qui, sur un profil, par exemple les seniors ou les jeunes conducteurs, est en augmentation parce que l'année précédente, il y a eu plus de sinistres, il y a eu plus d'indemnités versées. Et donc, de ce fait, ce profil, votre profil, pas de chance, lui, continue à augmenter.
Mais à quelle fréquence est-ce qu'il est conseillé de changer d'assurance auto pour limiter les hausses de tarifs?
On conseille en général de challenger, de revoir son contrat tous les ans. C'est-à-dire se dire, bon, je vais appeler mon assureur déjà, voir un petit peu ce qu'il en est, mettre à jour mon état civil. Est-ce que depuis je me suis marié, j'ai peut-être eu la naissance d'un enfant? Donc ça, c'est des éléments qui peuvent faire baisser la cotisation d'un contrat. Et puis, il ne faut pas hésiter, si le tarif nous semble un peu élevé, à aller consulter d'autres assureurs, ne serait-ce que pour avoir des devis de comparaison et pouvoir se retourner sur son conseiller et dire, ben voilà, on me propose mieux, qu'est-ce que vous me proposez? Si l'assureur là est capable de faire un geste, il le fera. Si vous considérez effectivement qu'il y a mieux ailleurs, ben dans ce cas-là, on peut aller changer son contrat très facilement.
D'accord, donc en fait, au bout d'une année, là où on peut finalement partir, on saisit cette opportunité pour pouvoir échanger avec notre assureur. Et on peut négocier vraiment avec un assureur?
Oui, bien sûr, vous pouvez négocier avec un assureur. Il y a toujours des marges de manœuvre. Alors, d'accord, parfois avec des contreparties, on peut vous demander effectivement de mettre un deuxième contrat, d'assurer une deuxième auto, peut-être de faire venir votre assurance habitation aussi dans le lot, et donc d'avoir des tarifs dégressifs. Mais comme tout produit, vous avez possibilité de négocier ça directement avec vos conseillers.
Et alors, comment bien comparer les offres des différentes assurances? C'est pas évident tout ça.
Alors, le premier point, bien sûr, c'est de comparer les prix, les franchises, c'est ce qui saute un petit peu aux yeux. C'est le premier élément qu'on va rendre visible et qu'on va pouvoir comparer facilement. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller regarder quelles sont les garanties qui sont offertes par les contrats et quelles sont un peu les conditions de déclenchement. Mmh. Par exemple, vous pouvez avoir des garanties comme le dépannage ou le remorquage qui vont s'activer chez certains assureurs en bas de chez vous, à 0 km, chez d'autres assureurs à 25 ou 50 km. Donc ça, en fonction de votre usage, c'est des éléments qui peuvent faire la différence.
Ouais, c'est pas la même chose. Et c'est quoi la partie exclusion ?
Les exclusions, c'est tout ce qui n'est pas finalement assurable. C'est-à-dire que vous venez pour assurer votre auto et puis on va vous dire, bah, d'accord, on assure votre auto, mais il y a certains risques qu'on ne va pas pouvoir garantir. Donc si jamais ces risques surviennent, eh ben, il faudra vous débrouiller tout seul. Nous, on ne pourra pas vous rembourser.
Du genre.
À titre d'exemple, on a régulièrement dans les exclusions les effets de vagues ou submersions. Donc ça, c'est pour les personnes qui habitent en bord de mer. Mais effectivement, vous avez plusieurs assureurs qui peuvent mettre ça en exclusion. Donc si votre véhicule est emporté par les vagues, par exemple, en cas de forte tempête, eh ben, vous n'allez pas être remboursé, indemnisé correctement. Donc il faut être vigilant sur ce point et souscrire un contrat qui couvre si vous êtes en bord de mer.
Oui, ça rejoint ce que vous nous disiez sur le sur-mesure en fonction des profils. Combien puis-je espérer économiser en fait en changeant d'assurance ?
En fonction du montant que vous payez, vous pouvez espérer faire plusieurs centaines d'euros d'économies. Nous, on a fait une étude en 2019 sur les utilisateurs de notre comparateur d'assurance et le chiffre moyen qui est ressorti, c'est 340 euros d'économies par
an.
C'est
énorme !
Juste sur l'auto. Alors ça veut dire qu'il y en a qui font plus que ça, d'autres moins que ça, mais concrètement, la vérité, la généralité là-dedans, c'est que oui, il y a des économies à faire pour les mêmes garanties.
Mais alors pourquoi, c'est la question des enfants, pourquoi, mais pourquoi les assurances, elles ne pratiquent pas toujours les mêmes prix ? Alors je comprends le côté concurrentiel, mais pourquoi est-ce qu'il y a parfois autant d'écart de prix entre deux assurances ?
Parce qu'il y a beaucoup de choses dans un contrat d'assurance et que de ce fait, il faudrait pouvoir vraiment comparer ligne par ligne, garantie par garantie, les contrats pour regarder quelles sont les différences. Ça, c'est un premier point, c'est que vous allez avoir des changements entre chaque assureur. Vous allez avoir des offres qui sont plus complètes, sur lesquelles vous allez avoir plus de garanties, plus de services, plus d'assistance et d'autres moins. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement la politique commerciale de l'assureur. Vous allez avoir, en fait, chaque année, les assureurs vont faire ce qu'on appelle une revue de portefeuille. Ils vont regarder un petit peu comment se comporte leur base client et ils vont vouloir séduire davantage de jeunes conducteurs ou davantage de seniors, etc. Et sur ces populations-là, eh bien, ils vont décider de faire des efforts particuliers. Ça peut être par la création de nouveaux contrats, ça peut être par la mise en route de promotions ou véritablement d'une politique tarifaire agressive sur lesquelles on va se retrouver avec des prix très très bas, plus bas que les années précédentes. Et donc là, on a des différences de tarifs qui se creusent entre assureurs.
Vous êtes bien chez nous, Fabien Sociaux ?
On est très bien chez vous.
Bon, oui, on vous avait assuré d'une bonne ambiance. Donc, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. J'ai encore quelques questions à vous poser. À tout de suite pour la suite de Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien se poursuit. Dites donc, vous sentez Noël arriver ? Eh bien, dans un instant, c'est Pierre Nesman qui va nous expliquer comment choisir un bon sapin de Noël. Et puis, il fait un peu froid, vous trouvez pas ? Alors, si je vous dis, tiens, on va faire de la soupe ce week-end, vous allez me dire, oh non, la soupe, c'est pas terrible. Eh bien, Angèle Ferremac, elle va vous convaincre que ça peut être délicieux et on va révolutionner la bonne vieille soupe. Mais pour l'heure, on parle d'assurance auto avec Fabien Sociaux. C'est une conversation bien sérieuse et bien passionnante que nous avons avec vous, Fabien Sociaux, ce samedi matin. On parle des assurances auto. Vous venez de nous expliquer pas mal de choses et on comprend plus globalement le paysage de l'assurance auto et parfois des écarts, effectivement, que peuvent présenter les différents assureurs, les écarts de prix. Est-ce qu'on a des bons points de la part de nos assureurs quand on reste longtemps chez eux ? Parce que vous nous dites, bah tiens, on peut faire des économies en changeant tous les ans ou tous les deux ans. Mais en même temps, pour nous fidéliser, ils peuvent être sympas aussi.
Oui, vous avez des assureurs qui vont avoir effectivement une démarche proactive là-dessus, qui vont geler leurs prix, qui vont vous proposer des ristournes commerciales, qui vont vous proposer peut-être aussi des garanties supplémentaires moins chères, ou, comme je le disais tout à l'heure, de vous proposer des réductions si jamais vous ajoutez des contrats chez eux, donc avoir des tarifs dégressifs. Ce qui se fait beaucoup, c'est par exemple d'offrir des frais ou alors de rendre gratuite l'assurance pour, alors là on n'est plus dans le cadre de l'auto mais sur la santé, d'un troisième enfant ou des choses comme ça. Donc vous allez avoir effectivement des politiques de fidélisation qui vont se mettre en place également.
Oui. Est-ce qu'il existe un classement fiable des meilleures assurances auto ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose.
C'est ça, qui est le meilleur ?
Bah oui.
Eh bien en fait, qui est le meilleur, ça sera une réponse qu'on va fournir au cas par cas. Il n'y a pas véritablement d'assureur meilleur qu'un autre dans l'absolu pour tout le monde, pour toutes les situations. Il faut vraiment s'intéresser à ce dont on a besoin en tant qu'individu. Dans notre cas, quelles sont les garanties dont j'ai besoin? Et en fonction de ça, on va avoir des assureurs qui vont se détacher. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir des conseillers physiquement proches de moi? Est-ce que j'ai besoin d'une agence ou pas? Ça va déjà me diriger vers un assureur en ligne ou vers un assureur physique. Est-ce que j'ai besoin, effectivement, d'assistance, on le disait tout à l'heure, d'un dépannage 0 km, etc. Donc, il faut se poser cette question-là, regarder un petit peu ce qu'on nous propose, et puis, en fonction de ça, on trouvera la meilleure offre.
Il n'y a pas des courtiers en assurance?
Vous avez des courtiers en assurance qui... eux ont un choix qui reste restreint. C'est-à-dire que vous allez avoir 2, 3, 4 assureurs. Vous n'allez pas avoir tous les assureurs du marché qui seront disponibles auprès d'un courtier.
Comment je peux éviter les arnaques ?
Sur les arnaques, il faut être très vigilant sur les éléments où on vous invite à cliquer. Parce que concrètement, les arnaques, c'est essentiellement sur Internet. On va vous adresser un mail ou on va vous attraper pendant votre navigation et on va vous demander de cliquer rapidement sur des liens qui sont un peu étranges. On va vous demander de rapidement mettre un numéro de carte bancaire, des choses comme ça. Il vaut mieux éviter de suivre les liens qu'on vous adresse, même par mail. C'est-à-dire que si demain, votre assureur, qu'il soit AXA, Matmut, peu importe qui, vous envoie un mail et que vous avez un doute, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, la tournure est étrange, on vous demande quelque chose de particulier, vous laissez de côté le mail, vous allez sur le site, vous vous rendez sur votre espace client et puis là, vous regardez si effectivement vous avez des contacts, des besoins, et c'est à partir de là qu'il faut rentrer en contact avec son assureur.
Et dites-moi, est-ce qu'en changeant d'assurance, mon malus disparaît? Est-ce que je reviens, j'arrive toute vierge, toute propre chez mon nouvel assureur?
Ce serait une bonne nouvelle pour faire ça.
Ce serait la meilleure des nouvelles en ce samedi matin.
Malheureusement pas. Non, le bonus malus vous suit d'un assureur à un autre, c'est quelque chose qui est presque gravé avec vous. Non, c'est quelque chose qui passe d'une assurance à une autre, qui passe d'un assureur à un autre, qui est noté sur votre relevé d'information, qui est un document dont vous avez absolument besoin au moment où vous allez changer d'assurance. Oui. Donc c'est quelque chose qui va vous suivre. Si vous avez eu des sinistres, malheureusement, les effets seront en pire partout.
C'est comme le passé, ça nous poursuit. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Fabien Socio. Je rappelle que vous êtes expert assurance chez meilleurtaux.com. Dites-moi, vous avez déjà votre sapin de Noël ou pas, vous?
Non, pas encore, donc je vais écouter attentivement la suite de l'émission.
Ah ouais, parce que Pierre Nesman, il va nous raconter plein de trucs passionnants. À bientôt et joyeux Noël. Salut
Fabien.
Joyeux
Noël également. Au revoir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.
On avait choix entre Tino Rossi et Garou, et allez savoir pourquoi, on avait envie d'entendre la voix de Garou. Mais on adore aussi Tino Rossi. Hein. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu sur RTL, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6, et les premiers sapins de Noël sont en vente dans les magasins. Alors c'est vrai que c'est toujours émouvant, quoi. Il y a quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Noël, ça annonce en tout cas clairement une période. C'est encore trop tôt pour acheter son sapin, ou il faut attendre un petit peu, ou on peut y aller direct?
On peut y aller, effectivement, la vente des sapins commence en France vers la mi-novembre, et c'est vrai que pendant la première quinzaine, du mois de décembre, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, c'est là où il y a les plus grosses ventes de sapins. Pratiquement 50% des sapins sont vendus à cette époque-là. Donc c'est le moment d'aller choisir son sapin.
Mais oui, mais si je l'achète maintenant, qu'est-ce qui m'assure qu'il sera encore canon le 24-25 décembre?
Là, justement, il va falloir choisir une espèce qui va garder ses aiguilles. Et l'espèce qui aujourd'hui garde le mieux ses aiguilles, c'est le sapin de Norman. C'est un sapin qui a des aiguilles vert foncé, qui sont très très décoratifs, qui ne piquent pas. Et c'est le sapin par excellence qui va durer le plus longtemps, entre 4 à 5 semaines. Oui. C'est aussi le plus vendu des sapins de Noël.
Voilà, et on parlera prix après, mais en fait, c'est le meilleur aussi, rapport qualité-prix. Donc,
c'est exact.
Donc autant y aller. Il existe une grande disparité de prix, justement, selon qu'on achète son sapin au supermarché ou chez un fleuriste. Alors, est-ce que ça influe sur la qualité ou pas?
Ce qui va se passer, c'est que vous avez plusieurs réseaux de vente, effectivement. Vous pouvez avoir la grande distribution, vous avez des jardineries, des fleuristes, et puis on a aussi la vente par Internet. Moi, ce que je conseille, c'est très pratique, c'est de voir un sapin, de le voir, de le toucher, de voir sa silhouette, donc c'est pour voir s'il est bien équilibré, bien formé. Autant qu'il soit
bien équilibré, bien formé, bien séduisant.
Effectivement,
on est d'accord.
Et c'est vrai que c'est dans les jardineries, dans les magasins spécialisés, dans les commerces spécialisés, pépinières, horticulteurs, que l'on va trouver vraiment un choix très important, avec souvent des produits qui sont 100% français, une production 100% française. Mais il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de marchés éphémères. C'est souvent des producteurs qui viennent occuper un espace pour vendre leurs sapins. Et c'est vrai que là, on peut avoir des prix qui sont très intéressants et surtout un contact direct avec le producteur et des végétaux, des sapins qui sont d'une très très belle qualité.
Oui, et puis c'est direct, en fait, producteur-client, quoi. Hein, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais est-ce que ça veut dire que les sapins de supermarché sont de mauvaise qualité ?
Pas forcément, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des sapins de mauvaise qualité, mais c'est vrai que s'il y a des prix qui sont un peu plus bas, il faut bien penser qu'il y a aussi une qualité qui va peut-être un petit peu changer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous conseille, là aussi, de démailloter. Vous savez, les sapins, ils sont souvent emmailloté dans un filet. Mm-hmm. Et donc, il est très important de ne pas l'acheter complètement emmailloté, de demander à ce qu'il soit emmailloté après l'avoir choisi, de telle sorte que vous puissiez vraiment voir sa silhouette, comme on le disait tout à l'heure. Et si vraiment vous voulez un sapin de très bonne qualité, vous avez aujourd'hui le label rouge. C'est un label qu'on utilise aussi dans l'alimentaire, et bien qui est appliqué aussi au sapin et qui garantit à la fois une production française, mais aussi des sapins très, très homogènes, très réguliers, d'une très, très bonne qualité.
Allez, on va se retrouver dans un instant, Pierre, parce qu'on va parler de toutes les espèces de sapin qui existe, parce qu'effectivement on n'en a pas qu'un, le sapin de Norman, on en a d'autres, et puis voilà, et puis vous allez nous expliquer comment le garder beau, bien formé, séduisant jusqu'à Noël. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, avec Angèle Ferremac, on va parler de la bonne soupe, mais pour l'heure, c'est bientôt Noël avec Pierre Nesman. Et grâce à vous, Pierre Nesman, on parle des sapins de Noël. Alors j'ai retenu un truc il y a un instant, c'est qu'il ne faut pas acheter son sapin dans son filet. C'est comme, vous savez, je pensais au collant gainant aussi, des femmes. C'est-à-dire que si votre sapin il est gainé dans son collant, bah, vous pouvez pas véritablement connaître la silhouette. Donc demandez à ce que le sapin soit mis dans son filet après achat. Maintenant, il faut choisir le bon sapin, Pierre Nesman. Il en existe plusieurs catégories et pas simplement le sapin de Norman dont on a parlé tout à l'heure.
Effectivement, il y a sapin de Norman, meilleure qualité-prix, il ne perd pas ses aiguilles. Aujourd'hui, on a une autre espèce, l'Abies fraseri, qui est beaucoup plus récente que le Norman et qui a aussi l'avantage de ne pas perdre ses aiguilles. Les feuilles, les aiguilles sont vertes, argentées. Elles dégagent une très jolie, une très agréable odeur citronnée et il est assez bon marché, un sujet d'1m25, il faut compter une trentaine d'euros. Okay. Après, vous avez l'Abies nobilis, le sapin noble. Alors là, c'est le plus chic, le plus élégant. C'est aussi le plus coûteux, 60 euros environ pour 1m25. Les aiguilles ne tombent pas, elles dégagent une très très belle odeur de résine et de citron. Elles sont vertes avec un revers légèrement bleuté.
Ah, c'est
très joli, très régulier. Voilà, c'est le plus beau, vraiment le plus beau des sapins, mais c'est aussi effectivement le plus coûteux. On a ensuite le sapin bleu. Alors là, c'est un sapin un peu particulier qui est assez rare, qui est très cher parce qu'il a une croissance très lente. C'est un sapin qui a des aiguilles bleutées et c'est pas facile à trouver. Moi, j'orienterais plutôt là, dans ce cas-là, vers la pièce noble, sapin noble dont on vient de parler. Et puis le dernier, c'est le fameux Épicéa, le sapin traditionnel. Alors le sapin traditionnel, il sent extrêmement bon. Il a des aiguilles qui sont vert clair. En revanche, elles piquent, surtout, elles tombent assez vite. Dès qu'il se déshydrate, les aiguilles tombent. Donc c'est vraiment celui qu'on va acheter en tout dernier moment. Et il vaut entre 20 et 25 euros pour un sujet qui fait 1m25 de haut.
Pierre, si les sapins perdent leurs aiguilles parce qu'ils se déshydratent, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître complètement idiote, mais on ne peut pas les humidifier, les arroser, leur donner pour prolonger justement leur durée de vie ?
Mais si, justement, on sait ce qu'on va faire, parce que dans nos intérieurs, ce qui se passe, c'est qu'il fait chaud.
Ouais.
On va éviter, évidemment, de mettre le sapin à proximité d'une source de chaleur. On va aérer la pièce quand on peut, pour justement donner un environnement qui est assez agréable au sapin. Et puis, bien sûr, on peut pulvériser de l'eau sur le feuillage pour réhydrater les aiguilles. Et puis, ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui, c'est mettre des petites soucoupes avec de l'eau au pied du sapin, de manière à ce que, par évaporation, cette eau va maintenir une atmosphère humide et va un petit peu compenser l'atmosphère sèche que l'on retrouve dans nos intérieurs. Et puis, il y a même une petite astuce aujourd'hui, c'est qu'on trouve des soucoupes dans certaines jardineries dans lesquelles on va intégrer à la fois un pic pour fixer le pied du sapin et autour, vous avez une petite cuvette étanche dans laquelle on va pouvoir mettre de l'eau et le tronc va pouvoir absorber de l'eau pour réhydrater les tissus du sapin. Et donc, ainsi, on va prolonger la vie de son sapin de quelques jours, voire quelques semaines.
Tout ça en faisant très attention, évidemment, aux enfants, j'y pense, parce qu'il suffit qu'on ait des guirlandes électriques et une soucoupe d'eau à côté. Voilà, évidemment, on prévient les enfants de ce genre de démarche. Le plus écologique, parce qu'on se pose la question quand même, est-ce que c'est pas de l'acheter en pot ?
Pour acheter un sapin en pot, c'est effectivement une démarche qui peut être intéressante, mais après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Et donc, si on achète un sapin en pot,
le replanter dans le jardin quand on
eh ben oui, Voilà, quand effectivement on a un jardin, mais il faut savoir que si tous les ans on plante un sapin dans son jardin, il faut déjà un grand jardin. Oui. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Et souvent, c'est vrai que le bilan écologique d'un sapin coupé est souvent plus avantageux qu'un sapin, même un sapin artificiel.
Alors j'allais vous demander.
Un sapin planté.
Ouais, parce que le sapin artificiel, on le réutilise chaque année. Alors c'est moche, hein, je suis d'accord avec vous.
Oui, effectivement, c'est vrai, mais en général, la durée de vie d'un sapin artificiel, c'est entre 5 et 6 ans. Et il faut savoir que ces sapins, ben, ils sont fabriqués à l'autre bout du monde, qu'il faut les acheminer. Et donc, quand on fait le bilan carbone de ces sapins, eh bien, c'est pas du tout à l'avantage. Il vaut mieux s'orienter vers un sapin coupé qui, évidemment, a une durée de vie plus courte, mais qui, derrière, fait vivre, par exemple, toute une filière horticole, et puis qui sont replantés. Quand vous avez des pépinières labellisées, eh bien, un sapin coupé, eh bien, il y a un sapin qui est planté pour, effectivement, assurer la relève dans les années à venir.
Alors, j'allais vous demander, comment est-ce qu'on recycle son sapin coupé? Moi, je le dépose chaque année, en fait, en bas de chez moi, il y a une sorte de parc, et on peut ramener son sapin. Qu'est-ce qu'ils deviennent après?
Il faut savoir, Flavie, que 4 sapins sur 5 sont recyclés aujourd'hui. Donc, très bonne démarche, celle que vous avez, qui consiste à aller la déposer dans des points de collecte. Alors, il y en a dans les villes, il y en a aussi dans les magasins spécialisés, qui vont même, pour certains, vous donner un bon d'achat. Donc, vous allez pouvoir racheter quelque chose après. Mais c'est vrai que cette démarche de recycler un sapin est intéressante parce qu'on va les broyer, on va les composter, et puis ensuite, on va les restituer sous forme de paillage ou sous forme de terreau dans la terre. Et donc, c'est intéressant parce que c'est plutôt une démarche qui est à la fois citoyenne, mais aussi une démarche qui est vertueuse.
Merci beaucoup, Pierre Nesman. C'était super intéressant, comme d'habitude. Et puis, je rappelle votre livre aussi, « Mon jardin s'adapte au changement climatique », que l'on conseille à nos auditeurs chez Delachaux et Niesley. À bientôt, Pierre. Et vous aimez la soupe?
Je suis sûre que vous
aimez la soupe, vous.
Ah oui, tous les soirs, généralement, petite soupe maison.
Non, c'est vrai?
Ben oui, c'est des souvenirs d'enfance, hein, en fait.
Mais alors justement, c'est bien parce que ce sont des souvenirs d'enfance que certains n'aiment pas s'y mettre. Vous faites quoi comme soupe, votre préféré?
Alors, ma préférée, là, actuellement, c'est des courges, des potimarrons, ce type de soupe.
Ouais.
Mais après, je m'adapte en fonction des légumes d'hiver qu'on va trouver au marché.
Je vous donne un petit truc. Moi, je fais une... si ça vous intéresse. Moi, je fais une soupe potiron. Voilà. Et vous savez ce que je mets à la fin? On va demander à Angèle Ferromax ce qu'elle en pense. Un zeste d'orange dessus. Je râpe une orange et je vous assure, essayez, vous mettez quelques petites noisettes là-dessus et je vous assure que vous penserez à moi. D'accord?
Très bien. Merci, Flavie.
Merci,
bon week-end à
Pierre.
Tous.
À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Allez, place à la soupe.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Je tiens à rappeler à nos auditeurs que la semaine dernière, nous avons fait une séquence sur l'alimentation anti-ballonnement. Voilà, et c'est la musique de la soupe aux choux que vous entendez. Donc effectivement, je pense qu'à l'époque... il pétait dans le film alors, effectivement. Ça pouvait être intéressant. Bonjour Angèle Ferremac.
Bonjour Flavie, vous êtes en forme.
Écoutez, oui, non mais c'est vrai, j'entends la soupe aux choux, donc on se souvient toujours de cette scène avec Villeray qui pète aux étoiles, inoubliable. Et je me dis que la semaine dernière, c'était vraiment intéressant. Je suis ravie de vous recevoir, Angèle. Comment vous la trouvez, ma soupe au potiron avec un petit peu d'orange?
Je suis un petit peu jalouse parce que j'ai l'air de quoi maintenant que vous donnez des idées?
Non, c'est vrai, il y avait celle-là ou pas?
Non, il n'y avait pas celle-là, mais le fait de mettre un zeste d'agrumes sur une soupe chaude, c'est exceptionnel. Ça fait partie des astuces.
Complètement.
Pour faire des bonnes soupes.
On parle de soupe avec vous. Vous êtes la créatrice de la guinguette d'Angèle. Donc la soupe est au menu, hein, évidemment, chez vous. Les meilleures et les mauvaises associations de légumes pour la soupe. Parce que quand on était petit, moi j'avais l'impression qu'on mettait des carottes, des patates. C'est vrai, un poireau. Et puis voilà, on faisait une tambouille et c'était la soupe que les enfants n'avaient pas forcément envie de manger.
C'est vrai que dans les mauvaises associations, je dirais que quand c'est trop soufré, on n'a pas trop envie. Donc quand on met du chou, on ne mettra pas de poireaux, d'échalotes, d'oignons, ce genre de choses.
C'est vrai. Mais déjà, il faut y penser, puisqu'on parlait des ballonnements.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Faut y penser, c'est important. Après, il y a des petites astuces contre les ballonnements pour la soupe. Par exemple, quand on rajoute des légumineuses, puisqu'on parle de proutes, soyons francs, si on ajoute des pois chiches ou des lentilles, ce genre de choses, des haricots, on peut mettre un petit peu d'algues kombu. C'est des algues qui nous viennent de Bretagne, qu'on trouve dans les magasins bio. Et en fait, ça va complètement atténuer l'effet.
Sans blague.
L'effet ballonnement, voilà.
C'est comme du charbon, quoi, en fait, mais qu'on met directement dans la soupe.
C'est ça, exactement. On le met au moment où on cuit.
Des algues de kombu.
Mais sinon, dans les bonnes associations, moi, il y en a que j'adore, c'est champignons, crème, noisette, petits pois menthe, chou-fleur avec du miso, ça c'est délicieux, pois cassé, poireau, voilà, ça fait partie de mes mélanges que j'aime bien. Mais il faut faire un petit peu attention quand on fait des soupes, de ne pas mettre trop de pommes de terre. Quand on met trop de pommes de terre, quand on dose mal la quantité, en fait, la pomme de terre est pleine d'amidon, et en fait, avec la lame du mixeur, quand ça travaille trop l'amidon, ça donne une texture collante, et ça peut donner une soupe vraiment avec une texture pas très agréable.
Oui, on parle de soupe, mais pas d'aligot, hein, donc voilà, c'est pas la même chose. Quoi. On va se retrouver dans un instant, vous allez nous donner encore des recettes, et des recettes gourmandes, évidemment. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous dans Nous voilà bien. Ce matin, Angèle Ferremag, qui est créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris, relève le défi de nous faire aimer la soupe. Et je vous dis qu'il est déjà relevé. Ah bah tiens, je me demandais, est-ce qu'on peut relever une soupe ? On peut faire des soupes épicées, hein, d'ailleurs, non ?
Bien sûr, on peut faire des soupes épicées. On peut déjà les relever avec des zestes, la vie, comme vous l'avez fait. On peut évidemment mettre plein d'épices dedans, que ce soit du girofle, de la cannelle, du piment, du paprika, du cumin, de la coriandre, de la moutarde,
on peut mettre
sèche,
de tout,
du curry.
Quoi.
De tout. On peut aussi la relever avec des herbes fraîches, avec des noix, avec des bonnes huiles, un petit filet au dernier moment. Oui, on peut vraiment parfumer notre soupe.
Bon, alors, il y a les légumes oubliés en ce moment. C'est bon pour la soupe, ça, ou pas ?
Ben ça, c'est super. Évidemment, on prend quelques précautions quand ce sont des légumes comme le topinambour, par exemple.
On y revient toujours.
Donc, voilà. Mais sinon, oui, c'est exceptionnel. Il y a évidemment les panais, les cardons, les fèves, le cerfeuil tubéreux, alors qui fait partie de mon préféré, ça ressemble au panais. C'est un peu plus petit, c'est délicieux. On les trouve surtout sur les marchés des producteurs. Hein. Mais il y a aussi le chou kale, la courge bleue, les carottes violettes, mais alors, le rutabaga.
Justement, si je prends tous ces légumes-là, par exemple, je ne vais pas cuire un panais comme je vais cuire du chou kale. Donc, comment ça se passe au niveau de la cuisson des légumes ? Est-ce que je les fais revenir avant dans une poêle ? Est-ce que je les coupe en morceaux, je les mets tous dans l'eau en même temps ? C'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, dans l'appréciation de la soupe.
Ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, pour la soupe, l'idéal, c'est d'adapter la coupe selon ce qu'on va mettre dans sa cocotte. Donc, par exemple, si on met panais, pommes de terre, navets, carottes, on va les couper à peu près de la même taille. Après, peu importe la taille, ça dépendra du temps de cuisson. En revanche, si on met des épinards, du chou kale, des feuilles vertes, on les ajoutera plus tard, avant
D'accord.
de mixer.
D'accord.
Déjà, ça va nous permettre de garder un peu plus les bienfaits et en plus de ne pas surcuire et perdre complètement le goût et
D'accord.
la couleur, d'ailleurs.
Et est-ce que je peux en faire revenir à la poêle pour avoir un goût un peu plus gourmand auparavant ou pas ?
Oui et non, en fait, ça dépend quelle soupe on veut faire. Si on veut faire une soupe qui a un super goût, etc., on pourra faire légèrement griller d'abord les échalotes ou les oignons ou l'ail et ensuite ajouter les légumes. Comme ça va rehausser leur parfum, ça aura meilleur goût. Et c'est qu'ensuite qu'on ajoutera les légumes, puis le bouillon, idéalement, pour rehausser aussi le goût, pour sortir les sucs. Mais on a des façons aussi très saines de faire la soupe, comme de les faire cuire ou à la vapeur, ou à l'étouffée, ou à la vapeur douce. Et en fait, ensuite, on le mixera avec de l'eau chaude et on ajoutera plus de saveur après. Donc, par exemple, en ajoutant au moment où on mixe un peu d'échalotes crues, ou de gingembre cru, ou d'herbes fraîches, avec l'assaisonnement, etc.
D'accord. Si j'ai pas de mixeur, au fait, je fais comment ?
Alors, il y a plein de soupes qui sont faites déjà sans mixeur un peu partout dans le monde. Le minestrone, la soupe au pistou, la soupe à l'oignon, la soupe au lard et au chou, le borsche, la bouillabaisse. Mais en fait, on peut faire de très bonnes soupes sans mixeur. On garde les morceaux. Déjà, ça va permettre de faire baisser un peu la glycémie parce qu'on va garder les fibres. Mais par exemple, moi, je fais souvent une soupe qui est juste en fait des légumes cuits comme une potée avec des poireaux, des carottes, des navets, des pommes de terre, un bouquet de thym, éventuellement pour les amateurs du lard fumé. Et puis en fait, je les coupe assez petits, à peu près le même calibre, et je les recouvre d'eau et je laisse mijoter avec peu d'eau pour bien que les goûts se mélangent. Et puis ça, dans l'assiette, en fait, c'est très bon. On peut rajouter un œuf mollet, on peut rajouter une cuillère de crème. On peut le servir avec une bonne tranche de pain de campagne. Et en fait, ça fait un super dîner, quoi.
Oui, mais ça fait tout un dîner. Je me dis parfois aussi, Angèle, que l'attrait gourmand d'une soupe, c'est aussi quelques petits ingrédients supplémentaires qu'on met dessus. Je vous parlais tout à l'heure des noisettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la soupe, elle peut être beaucoup plus jolie. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut l'agrémenter de plein de petits ingrédients santé qui, en plus, vont la rendre plus appétissante.
Exactement. Il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre dessus. Déjà, une soupe, que ça peut être très beau en fait. Ouais. Et c'est très facile de rendre sa soupe belle. Il suffit de rajouter un petit filet d'huile, alors, ou de l'huile d'olive, ou une bonne huile de noix, une huile de chanvre, une huile de cameline. En fait, ça tombe toujours tellement joliment le côté lipidique un peu gras sur la soupe. Ça fait des petits points. Enfin, c'est magnifique. On peut évidemment mettre des petites herbes aromatiques. Donc moi, j'aime bien ne pas les ciseler, mais les mettre, choisir les petites feuilles de cerfeuil, de menthe, de basilic, de ciboulette, ce qu'on veut. Et on peut aussi ajouter des noix, évidemment. Des petites noix torréfiées ou des croutons, ce genre de trucs, c'est délicieux.
Bon, allez, vous répondez à des questions pratiques. Si je fais une soupe trop liquide, est-ce que je peux l'épaissir ?
Ah oui, alors on peut épaissir ces soupes trop liquides avec, soit, moi, je trouve que la meilleure technique, c'est de la faire réduire. Donc, on décide de dîner dans 2 heures, tant pis.
Ah, d'accord. Je comprends.
On fait réduire, donc évidemment, on enlève le couvercle et on va laisser l'eau s'évaporer. Moi, je trouve que ça, c'est la mieux. Déjà, ça va la confire, ça va avoir bon goût et en plus, on ne rajoute rien. Sinon, on peut aussi rajouter des légumineuses. Donc, pourquoi pas ajouter des lentilles, des pois chiches, des pois cassés, ce genre de choses.
Mais que je dois faire cuire avant, non ?
On peut faire cuire avant, sinon on peut les avoir dans son placard déjà cuit.
D'accord.
Sinon on peut aussi, alors j'aime un peu moins ces techniques, mais ça marche aussi très bien, ajouter des fécules de maïs, de pommes de terre, de tapioca ou des farines pour les épaissir. Et on peut aussi ajouter, pourquoi pas, des œufs, des protéines. Okay.
D'accord. Si au contraire, ma soupe elle ressemble à de la purée et que je n'ai plus mon eau de cuisson, comment je peux la...
Ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais alors dites-moi pourquoi.
Parce que là, c'est très simple, il suffit d'ajouter ou du bouillon ou de l'eau chaude, ou de la crème ou du lait.
C'est aussi simple que ça, d'accord, ok.
Ah oui, on va adapter la consistance qu'on veut.
On ne va pas lui faire perdre son goût en lui rajoutant juste de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut mettre un petit bouillon, quoi.
Non, aucun problème, si elle est déjà bien concentrée.
Si on a eu la main trop lourde sur le sel, comment est-ce que je peux l'adoucir ?
Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent le cas, en fait, bizarrement, sur les soupes. Déjà, moi, mon astuce, c'est de ne jamais assaisonner pour tout le monde avant. Je pense que c'est génial, surtout si on a une famille à la maison, de laisser vraiment le goût brut et chacun assaisonne comme il veut. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut vraiment retrouver les vrais goûts. Mais sinon, on peut ajouter de l'eau. Ouais. On peut aussi ajouter du lait, du bouillon, évidemment s'il n'est pas salé, de la crème. On peut battre des œufs crus dedans. Et aussi, alors après, ça va changer le goût de la soupe, mais l'acidité, ça va contrebalancer le goût du sel. Donc, on peut mettre, par exemple, un jus de citron. Si on a une soupe un peu exotique, ça marchera bien. Et d'ailleurs, pour tous les autres plats, s'ils sont trop salés, on peut toujours ajouter un peu d'acidité, comme du vinaigre de cidre ou du sucre. Donc, par exemple, un peu de miel, ça va contrebalancer.
Eh bien, merci beaucoup pour l'information soupe. Merci, Angèle Ferremade. C'était
avec
super
plaisir.
Intéressant. Je rappelle, évidemment, La Guinguette d'Angèle à Paris. Vous êtes chef et naturopathe. Qu'est-ce que je cite comme livre ? Tiens, parce que vous en avez écrit Bon, simple et sain.
Oui, non, j'en ai écrit plein, mais c'est surtout sur mon Instagram où je donne plein de recettes de
génial.
Soupe en ce moment.
Très bien. Eh bien, on va sur votre page Instagram. C'est super. Merci beaucoup, Angèle.
Merci, Flavie.
Je vous embrasse. À bientôt.
Au revoir et bonne soupe à tous.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et sur les meilleures plateformes de podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h sur RTL pour Jour J, le magazine qui ressuscite les événements marquants de notre histoire collective. C'est passionnant. Et puis la semaine prochaine, évidemment, on se retrouve samedi 9h15, à votre réveil peut-être, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse et bonne soupe.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.